grande question qui se pose traditionnellement au sujet de cette notion et de ce concept. Et ensuite, nous aurons une présentation musicale par le groupe des Sud-Américains et sur une composition de Chaim Kukierman, Animerati Yafo, et qui sera expliquée par Raphaël Stavsky au sujet des. Sur un thème concernant la Tshuva aussi. Bien, je vais vous demander de vous répartir des livres de Dvarim, puisque nous allons au préalable lire les versets qui représentent la principale source concernant le problème de la Tshuva dans la Torah. Et j'essaierai de me relier à trois questions en particulier. J'espère que j'aurai suffisamment de temps pour l'analyser. Et nous verrons que c'est le même texte parle de deux réalités qui peuvent s'exprimer par le même vocable en hébreu, Teshuvah, et en particulier du point de vue du sens du verbe, d'où découle le mot de Teshuvah. Mais je vais attendre 5 minutes que ce soit réparti. C'est ça ? Comment ? De Devarim, il n'y en a pas ? Ah, ils sont... Eh bien, prenez le Tanakhim.
Donc, je vais faire passer
les Tanakhim. Non, je pensais les Tanakhim. Excusez-moi, c'est dans une autre salle. Donc. Et alors, vous ouvrirez vos livres au chapitre 30 de Devarim, dans la paracha de Nitzavim. Et pourquoi la tuile a déjà eu lieu là-bas ? Bien, prenez le chapitre 30 de Devarim.
140.
Oui, quelle page ?
148.
148 dans les Tanakhim et dans le. Ah non, dans les Chumashim. Qu'est-ce qui se passe, il fait chaud ou s'il m'en fait chaud ?
Très chaud.
Pas ouvrir les. Bien, essaye de coincer le machin.
Le store, et, là-bas.
Oui, le store de.
Ça prend moins de.
Et vous ouvrez là. Ça y est ? Donc, c'est d'air. Alors, je vais reprendre quelques notions de base qui vous sont déjà familières, je suppose, mais ça nous permettra de préciser moins les termes. Et vous ouvrir là aussi, qui est un peu de. Même la porte, si c'est possible. Bon. Alors, le mot de tshuva, en hébreu, dérive de la racine shuv, qui signifie, dans son sens fondamental, revenir. Et il y a une première signification du substantif tshuva, c'est la conduite du retour lorsqu'il y a eu une faute, du retour à une conduite droite. Donc, premier sens très simple et très fondamental, la teshuva, c'est le retour sur la faute dans le sens du repentir. Il y a un autre substantif qui se rattache à cette racine et qui est shiva, le fait de revenir lorsqu'on a été éloigné. Par exemple, dans l'expression de shiva tzion. Historiquement, cette expression de shiva tzion désigne le fait qu'à la fin du deuxième exil, entre le premier temple et le deuxième temple, c'est-à-dire entre le premier royaume de Juda, le deuxième royaume de Juda a commencé le deuxième grand exil, qu'on appelle l'exil de Babel, qui est l'exil des Judéens, qui étaient les rescapés des Hébreux, puisque le royaume du Nord avait été déjà dispersé et détruit auparavant. Et lorsque Ezra et Néhémie ont décrété le retour à Sion, alors on a appelé le retour de Babel, de la Babylonie, c'était au temps du royaume de Perse, ensuite, qui a été conquis par les Grecs. Mais c'était au temps des Perses. On a appelé ce retour Shiva Tzion. Eh bien, le texte que nous allons lire entremêle, pratiquement dans les mêmes versets, et comme vous allez le voir, dans les mêmes expressions, une exhortation au retour à la conduite morale droite. Je vais schématiser en disant le retour à la Torah. Mais nous aurons à préciser tout à l'heure qu'il y a différents niveaux de ce retour. Donc, désigne le fait de tshuva dans le sens de repentir, que je vais de nouveau définir de façon élémentaire. S'il y a eu faute, le fait de revenir sur l'attitude de la conscience qui est entrée dans la faute de la revirginiser, si j'ose dire, de la guérir de cette atteinte que représente la faute. Et c'est intentionnellement que j'emploie ce terme de guérir, parce que le terme qu'emploie le prophète chaque fois qu'il parle de l'exhortation au repentir, je ne citerai pas les versets, ça fera trop d'érudition, mais il y a un diagnostic ici très important, c'est un sujet pour lui-même, qui a quelque chose de très proche entre la maladie de l'âme, la maladie de la conscience, la maladie du nefesh. Je ne dirais pas de l'âme, la neshama, mais en tout cas la maladie du nefesh, et ce que nous appelons la faute. La conduite de l'immoralité dans le sens strict, non seulement représente un acte qui est fautif par rapport à une loi, mais atteint la conscience, le sujet même de la conduite morale. Et la conduite du repentir, c'est la guérison de cette atteinte. Et c'est pourquoi vous trouvez toujours relié la notion de guérison et la notion de repentir dans le verset des prophètes qui l'utilisent. Si vous voulez, tout à l'heure, je pourrais vous en citer. Et c'est en passant que j'indique cette notion qui est propre aux catégories hébraïques concernant ce problème. Pourquoi le problème est important? Mais je le dis vraiment très rapidement. C'est parce que nous connaissons un certain nombre de théories chez les psychologues, chez les médecins, certains sociologues, que, au fond, la morale comme telle n'a pas de réalité propre, et que les notions de bien et de mal doivent être ramenées, doivent être réduites à des notions proprement psychologiques de bon fonctionnement du psychisme. Et qu'il n'y aurait pas de faute morale, mais une maladie. Et qu'il y aurait donc à évacuer la culpabilité morale et de considérer qu'il n'y a pas de pécheurs, mais que des malades. Et que, par conséquent, c'est toute une série de théories philosophiques. Je vais vous citer un nom d'un des enseignants de cette théorie, des fondateurs de cette théorie, un médecin sans doute d'origine juive, mais italien, Lombroso. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, pour lequel il n'y a pas de méchant, comme on dit en français, il n'y a que des malades. Alors là, c'est un sujet pour lui-même, c'est un sujet extrêmement délicat, parce que c'est lié. Effectivement, nous voyons que les prophètes, parlant de la faute, parlent comme à la manière de Lombroso, si j'ose dire, avant la lettre, en disant qu'il s'agit d'une maladie de l'âme, une maladie du nefesh, dira Maïmonide. Mais, bien entendu, la perspective n'est pas du tout de réduire la moralité au comportement de la conscience psychologique. La conscience morale et la conscience psychologique renvoient à deux dignités très différentes de l'homme en tant que sujet. Il y a le sujet de la moralité et le sujet du comportement psychologique. Bien, je referme cette parenthèse et je me demande si je n'ai pas été imprudent de l'ouvrir, mais je continue. Alors, nous verrons donc que les versets que nous allons lire entremêlent cette exhortation à la tchoua, le revenir à la conduite droite lorsqu'il y a eu l'écueil, le piège de la faute, et d'autre part le retour lorsqu'il y a eu exil, lorsqu'il y a eu éloignement d'Eretz Israël par l'exil. Alors, je vous rappelle les termes fondamentaux. Teshuvah, l'exhortation au repentir, et Shivat Zion, le retour en Eretz Israël. Alors, c'est très frappant de voir, nous allons en tirer les implications d'ailleurs, que voilà un sujet propre à l'enseignement traditionnel juif, de la tradition juive, et je crois qu'il est important, par les temps que nous vivons, les expériences que nous vivons, de le mettre en évidence. La deuxième question qui s'y greffe, ce sera une troisième notion, c'est que ces textes que nous allons lire vont poser aux poskim. Les poskim sont les décisionnaires, c'est-à-dire ceux qui établissent le code impliqué par les commandements de la loi. La loi, la Torah en tant que loi, donne un certain nombre de mitzvot, de commandements, mais il faut établir le code corollaire de cette législation, ce que nous appelons la halakha en général, et les poskim sont les grands maîtres à travers les siècles. Les principaux ont été les rishonim, comme on les appelle dans le langage traditionnel, mais jusque notre temps, les grands dayanim sont des poskim, c'est-à-dire les décisionnaires, comment déduire ou induire parfois la législation pratique d'application des mitzvot de la Torah. Et alors, à propos de ce texte, il y a une grande controverse entre les décisionnaires. Est-ce qu'on doit considérer la Teshuvah comme une des mitzvot de la Torah, ou bien est-ce que c'est différent d'une mitzvah à proprement parler, que c'est une exhortation, mais non pas un commandement d'obligation? Je m'explique. dans la première thèse, considérait la mitzvah, la tshuva comme une mitzvah dans le sens d'obligation, de chova en hébreu, ça voudrait dire que parmi les 613 commandements de la Torah, il y en a un qui se veut formuler ainsi, et s'il y a une faute, tu es obligé, tu as obligation de, dans le sens d'obligation morale, il y a obligation de faire repentir. Et nous verrons que, en particulier, j'espère y arriver encore ce soir, il y a une grande controverse entre Maïmonide et Nachmanide à ce sujet. Je dis tout de suite quelles sont les deux positions, nous allons d'ailleurs commencer l'introduction par là, c'est que pour Maïmonide, il n'y a pas d'obligation, une des mitzvot de la Torah, d'avoir à se repentir s'il y a eu une faute. Il considère que c'est un comportement naturel de la conscience de l'homme qui a accepté la Torah, de l'homme pour qui la notion de faute est vraiment faute. J'expliquerai plus tout à l'heure. Il considère qu'il y a là une tendance de la conscience morale de, par elle-même, se repentir d'une faute qui aurait été faite, et ce que la Torah donne comme obligation, c'est l'aveu de la faute. Alors que pour Nachmanide, il y a parmi les 613 commandements de la Torah, un commandement en particulier, qui est que s'il y a eu une faute, il faut considérer comme une obligation de la Torah d'avoir à se repentir. Est-ce que vous sentez déjà le caractère extrêmement délicat de cette controverse? Et nous allons donc essayer de suivre ce programme. Je répète, pour que ce soit bien clair, nous allons d'abord à distinguer dans le même texte ce qui concerne la teshuva, le repentir s'il y a eu faute, et le retour en Israël s'il y a eu exil. Ça peut vous paraître étonnant, mais voilà ce qu'il faut découvrir. Lorsque la Torah parle de la teshuva, on ne sait pas exactement de quoi elle parle, a priori. Est-ce qu'il s'agit du retour en Eretz Israël, ou est-ce qu'il s'agit du revirement de la conscience après une faute? Voyez à quel point nous sommes peu familiers aux catégories authentiques de la tradition à ce sujet. Et je vais mettre un peu les pieds dans le plat, si j'ose dire. C'est-à-dire aujourd'hui, dans la génération où nous vivons, ces deux mouvements de retour sont indéniables. Le peuple juif est revenu en Eretz Israël. Et d'autre part, corollairement, surtout ces dernières années, quand je dis ces dernières années, ça fait à peu près une vingtaine d'années, quoique ceux qui ont vécu les commencements de la reconstruction des communautés en Europe, en particulier en France, savent qu'immédiatement, déjà après la Shoah, après la dernière guerre mondiale, il y a eu un mouvement de teshuvah, un mouvement de retour à la Torah, chez les rescapés des générations antérieures, mais ces mouvements se sont organisés comme mouvement de Baal et Tshuva, comme on les appelle en hébreu, surtout ces dernières années, et il semble que les deux perspectives soient radicalement distinctes, en tout cas dans le milieu qu'on appelle le milieu des Haredim. C'est-à-dire que l'idée du retour en Eretz Israël et l'idée du retour à la Torah sont complètement distinctes, alors que nous allons voir, la Torah, elle, son texte, les identifie. Et chaque fois que je retrouve ce sujet d'étude, je m'étonne de ce que personne ne s'en aperçoit. Enfin, il faut jamais s'étonner à ce niveau-là, c'est énorme. Mais il y a tellement de choses, une expression qui va à venir, qui, pour la Torah, vont de soi, et pour les Juifs, pas du tout. Bon, j'allais dire une blague, mais ça va prendre du temps. Alors, je reviens aussi. Je reviens au sujet. Voilà, je vais vous lire dans une étude du Rav Jolti, qui a été un des grands rabbins de Jérusalem, le rabbin Ashkenaz de Jérusalem, comment il a posé le problème. Je vais le lire très rapidement, en hébreu et en français simultanément. Rambam, Ilchot Tshuva, Perek Rishon, Halakha Rishona. Une citation du début de l'enseignement de Maïmonide dans les Ilchot Tshuva, les lois concernant le repentir. Kol mitzvah sheba Torah, de pluriel d'une fois. Toutes les commandements de la Torah, ben ase ben lota ase, soit les commandements d'action, les commandements qui instituent ce qu'il y a à faire, soit les commandements d'exhortation à ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire, ase lota ase, c'est clair. Im avar adam alachat mehem, si un homme a transgressé un de ces commandements, qu'il soit un commandement positif ou un commandement négatif, ben bezadon ben bishgava, soit intentionnellement, soit pas intentionnellement, je devrais dire involontairement, mais c'est déjà un terme négatif. Bishgava, ça veut dire ma responsabilité en tant que décision de ma volonté de faire vraiment ce que j'ai fait et qu'il n'y avait pas à faire, n'est pas engagée. j'étais pris par le jeu de la vie pour, dans tous les conditionnements qui font que nos actions sont quasi-responsables. Donc, Bezadon, c'est quand je suis vraiment responsable de ce que je fais. Bijlava, c'est la majorité des comportements de la vie. Bijlava, je suis pris par les machinations des choses machinales, si on peut dire ça comme ça. Kesheya Aset Tshuva, regardez bien le style de Maïmonide. Kesheya Aset Tshuva, lorsqu'il fera Tshuva, l'expression Asot Tshuva, c'est pas de l'hébreu très très. Et pourtant, Maïmonide est un puriste de l'hébreu. L'expression c'est l'achzor b'tshuva, ou la chouve. Mais finalement, on s'est habitué à cela, la asot tshuva. Faire, c'est un comportement qui est défini comme un acte qui consiste à faire tshuva. J'ai lu il n'y a pas longtemps, je voulais dire récemment, une étude vous savez que cette année commence, l'année qui commence va être l'année de la langue hébraïque, vous savez cela. Eh bien, j'ai lu une étude sur ces dérivation d'expressions sémantiques en hébreu, très imprégnée d'ailleurs de manières de parler, ça s'appelle des idiomes, empruntés aux langues que les juifs parlent actuellement. Par exemple, normalement, pour dire « venir en Eretz Israël », on dit « la'alot ». Mais voilà qu'il y a un vocable qui s'introduit dans l'hébreu israélien, « la'asot aliya », « faire la aliya ». Mais ce n'est pas pris du français, c'est pris de l'anglais. Je ne vais pas prononcer en anglais, je vais vous faire rire, mais c'est tout mec aliyah, monsieur Kazek. Vous voyez, c'est des fluences de sens, mais on a intérêt à réfléchir dans les catégories de la sémantique hébraïque elle-même. Faire aliyah, vous voyez tout de suite une chose insurmontable. Là, l'autre, c'est monté par degrés, mais on monte, okay. Vous voyez la différence. Kesheya, c'est tshuva, veyashuv, et qu'il revient, Mecheto, de sa faute, Hayav Nidvadot, il doit avouer. Vous voyez que pour Maïmonide, c'est très clair. L'expression qu'emploie Maïmonide implique qu'il considère que la Torah ne compte pas parmi les 613 commandements une mitzvah, une chova de faire tshuva, alors là je parle français, mais lorsque l'homme fera tshuva, il a obligation d'avouer sa faute. Genemar, Ish ou Isha qui a assez comme. Et on cite le verset, Vehit vadu et ratatam. C'est un verset qui institue, et ils avoueront leur faute. Asher Asu, Ze vidouy dvarim. Vidouy, Ze mitzvat asé. Donc pour Maïmonide, le vidouy est une des mitzvot de la Torah. Donc nous allons voir tout de suite l'opinion de Nachmanide. Il a quelques explications très rapides sur l'aveu. J'ai souvent l'habitude de dire que nous savons d'autre part, et on aura l'occasion de le citer, que la conduite du repentir, la conduite de la tshuva, est une des conduites morales les plus difficiles. Et c'est pourquoi nous avons énormément de textes, énormément de références importantes qui montrent qu'on est toujours aidé à faire tshuva, de deux manières. Soit par le jeu de la vie, qui en fin de compte, si j'ose dire, accule la conscience à ce revirement, à ce retour sur elle-même, va Shevotel Levavecha, et en général, c'est des Yisourim. C'est-à-dire que c'est très difficile à expliquer. Il faut le talent des romanciers, de grands romanciers, pour décrire en 600 pages comment finalement et par quelles associations d'événements on est mené à regretter une certaine conduite, on est mené à, finalement, je disais tout à l'heure, on est acculé pour pouvoir supporter sa propre conscience, a décidé qu'en fin de compte, il vaut mieux être ainsi que comme cela. Je crois que c'est très difficile à mettre en catégorie philosophique. Et il y a là une description phénoménologique et existentielle des comportements de la conscience morale qui fait qu'en fin de compte, on préférera le bien que le mal parce que le mal est insupportable. Mais pas forcément d'abord, à l'origine du mouvement de tshuva, pas forcément d'abord par vertu. Mais parce que la vie nous contraint à préférer le bien que le mal. Cette tshuva est acceptée. Elle est d'un niveau inférieur, mais elle est acceptée. Elle est le commencement des degrés de la tshuva, mais elle est acceptée, bien évidemment. Ça, c'est teshuva meira, comme on dit en hébreu, la teshuva qui vient de la crainte. Et là, il y a différents niveaux, d'ailleurs, de ce qu'on appelle la crainte ici. Et je crois que le premier niveau de cette aide négative qui est donnée, c'est les histories. Le jeu de la vie fait que je préfère être bien que mal. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Il y a une autre manière d'être aidé qu'on appelle Siafa d'Ishmaïa. Et là, l'aide qui vient d'en haut. Et là, on entre dans un domaine difficile aussi à expliquer rapidement. Différents facteurs peuvent jouer. Il y a des êtres privilégiés qui sont aidés à être moraux, soit par être direct. Après tout, le bon Dieu décide ce qu'il veut. Mais il veut aider quelqu'un, il l'aide. Soit par le fait que le mérite des ancêtres joue de manière toujours mystérieuse. Donc c'est un sujet un peu mystérieux, j'y entrerai pas, mais je crois que chacun d'entre nous a eu une fois dans sa vie cette expérience, et il suffit d'une fois pour savoir qu'elle est réelle, expérience que dans certaines occasions de comportement, de choix difficiles, on est aidé. On croit que c'est une intuition, on croit que c'est finalement un moment de grâce, c'est un moment de grâce d'ailleurs, mais plus que cela, et on est aidé à faire tshuva. Et cela, ça s'appelle tshuva me'ahava. Et c'est très différent comme comportement. Regretter le mal que l'on a fait à cause de la crainte de la situation dans laquelle ça nous met, ça c'est tshuva me'ira, tshuva me'ahava, se repentir de mal que l'on a fait pour amour de la vertu, c'est très différent comme comportement, et là c'est une tshuva un peu plus élevée, bien entendu. Mais dans tous les cas, la difficulté de la conduite du repentir vient en fin de compte de l'aveu. Parce que l'aveu, c'est lutter contre ce qui est en général la cause de la faute, c'est-à-dire l'orgueil. Là, je vous cite une analyse du Maharal qui a posé le problème de la manière suivante. Nous avons 1000 occasions de fauter, mais si on réfléchit à la motivation profonde de chaque faute, quelle qu'elle soit, en fin de compte, on trouve qu'il s'agit de l'orgueil. Mais pas n'importe quel orgueil. L'orgueil d'être, c'est un orgueil métaphysiquement très profond. Lorsqu'une conscience s'éveille à l'être, quel que soit l'âge à laquelle cet événement se produit, pour les psychologues de l'enfant, c'est très tôt que l'enfant, se connaissant, existant, distingue du monde extérieur. J'existe moi. En général, c'est un choc, un trauma chez l'enfant, et les parents ou les éducateurs doivent surveiller cela, sinon ce trauma accompagne toute la vie. Et c'est très difficile à... je ne voudrais pas vous affoler. Mais effectivement, c'est un choc énorme, une sorte de vertige qui prend l'enfant. Vous allez me demander comment je me rappelle, mais j'ai appris. De vertige qui prend l'enfant, qui découvre qu'il existe. Et alors, il y a là un moment extrêmement adine, très délicat, dans le développement de la personnalité. Et il arrive que ça s'exprime en orgueil d'être. J'existe, moi, c'est tellement énorme que finalement l'ego, comme on dit, s'installe. Et alors, le Maharal a donné une analyse extrêmement importante en montrant que derrière toute faute, il y a finalement cet orgueil d'être qui était au fond, si j'ose dire, la faute du premier homme, si on peut parler comme ça. Et avec des implications de diverses sortes au niveau des catégories morales, je crois que la principale, c'est l'ingratitude. Puisque on ne sait pas quel est le... admettons qu'on ne sait pas quel est le contenu de la faute du premier homme. Parce que le récit est hermétique. Le récit de la Bible est hermétique. Imaginez que nos ancêtres qui ont le courage d'être les premiers êtres humains, Adam et Chava, c'est pas rien. C'est les êtres vivants qui ont les premiers... ont eu le courage d'être homme. Réfléchissez bien à ça. On fait allusion à cela à Moussa de Kippour. Et c'est vrai, j'ai jamais compris, petite parenthèse chez nos cousins chrétiens, j'ai jamais compris cette ingratitude de la théologie chrétienne pour le premier homme. Il est chargé de tous les péchés d'Israël. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire du monde entier. Au lieu d'être reconnaissant à Adam et Chava d'avoir eu le courage d'être homme, Hazik Tova Ravotenu, dit le texte dans la Gemara, et on le charge de toutes les fautes du monde. Rassurez-vous, Adam a fait tshuva. Il a été pardonné. Et vous savez ça, qu'Adam a fait tshuva. Et alors, je vous l'étudierai peut-être dans un autre sujet. Le premier qui a fait tshuva, c'est Caïn. Et Caïn a enseigné la tshuva à Adam. Si ça vous intéresse, il nous reste un peu de temps, je parlerai de cela. Et lorsque Caïn a, a convaincu Adam, son père, qu'on pouvait faire Tshuva, alors il a été le premier à chanter Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Vous connaissez ça? Non, vous êtes calé. Et alors, et il a ajouté Tor Leyodot. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que on ne connaît pas le contenu de cette faute. Vous savez, d'après les traditions du catéchisme, enfin même du Talmud Torah, il s'agirait d'un fruit qu'on a mangé. Ben, alors imaginez un geste comme ça, le premier homme qui mange un fruit, et ça déclenche tout ce qui s'est passé dans le monde depuis ce temps-là jusqu'à nous y compris, c'est inouï. Je vois pas le rapport. Okay. Et pourtant, on dit ça pieusement. Okay. Donc, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Okay. Alors, je veux dire, une blague de Rosh Hashanah, ça devait être une pomme avec du miel, puisque c'était Rosh Hashanah. Okay. Il a voulu faire Rosh Hashanah. Il a pris une pomme avec du miel, ça a mal tourné. Bon, en fait, mais dans tous les cas, on ne parle pas du contenu de l'acte, c'est un autre sujet, mais il est bien certain que le texte nous envoie une indication dans la tentation du serpent, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ça, nous, on peut le dire en clair, Ken. Okay. Vous serez, certains traducteurs pourraient traduire même, vous serez comme des dieux en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Et il y a une sorte d'ingratitude qui se mêle à ce vertige de découverte de la créature, tiens, j'existe. Et je suis, moi. Et je pense à Descartes, je ne sais pas pourquoi. Je faute, donc je suis. C'est à peu près la formule de la faute du premier homme. Alors, le Maharal met en évidence que ce qu'on appelle en hébreu « yede avera », la main de la faute, ce qui fait que je tombe dans une faute, quelle qu'elle soit. « Yede avera », c'est clair en hébreu, c'est l'orgueil. Et effectivement, avouer un défaut, avouer une faiblesse, avouer un manquement, et avouer qu'on en est conscient que c'est bien un défaut, une faiblesse, un manquement, ça vient heurter cet orgueil fondamental de l'ego humain dont je parlais. C'est pourquoi l'aveu est effectivement difficile. Deuxième parenthèse sur ce point, c'est demander à voix haute. Et demander à voix haute. Et en tout cas, pour les fautes, quand on se repent, c'est comme ça qu'on dit, ou repenti, les fautes, on se repent. Vis-à-vis du prochain, les fautes vis-à-vis de Dieu, c'est entre nous. Et nous avons une liturgie nous aide à formuler l'aveu devant le Créateur. Mais les fautes vis-à-vis du prochain, l'aveu doit être devant témoin. Depuis que j'ai appris ça de mon maître il y a très longtemps, j'ai appris aussi qu'il fallait l'enseigner chaque année. Vous savez, ce genre de formalité d'aveu pré-Rosh Hashanah, je téléphone à quelqu'un à qui j'ai fait du mal, et je lui dis, si je te fais du mal, pardonne-moi, ça ne marche pas. Je veux dire quelle est la halakha, et il faut dire exactement ce que l'on a fait, et le dire devant témoin. Débrouillez-vous. Et il faut deux témoins. Pour que, effectivement, ça soit lavé. Quand on a causé un tort à quelqu'un, les fautes vis-à-vis du bien absolu par rapport à Dieu, ça, c'est la liturgie de Rosh Hashanah, Aseret Yom HaTshuvah, Yom HaKippurim, c'est entre nous. Et en communauté, on est aidé par le texte à c'est clair. Okay. Je voudrais même jusqu'où va la halakha, et ensuite, vous avez le droit d'être tolérant. Parce qu'elle est dure, cette halakha. Okay. Mais il faut être, je veux dire, conscient que la difficulté de la tshuva, c'est l'aveu, effectivement. Si la personne à qui on a causé du tort n'est plus de ce monde, eh bien, il faut aller devant la tombe avec un minyan et avouer ce qu'on a fait. Vous voyez, les choses sont sérieuses. Donc, alors, je reviens au sujet. Et c'est pourquoi on a intérêt à se réconcilier avant que ce soit trop tard. Et qu'on ne sait jamais, quand c'est trop tard, il vaut mieux la veille, comme on dit en hébreu. Et vous avez remarqué cela d'ailleurs, que les gens pieux, lorsqu'ils apprennent le décès de quelqu'un, prennent la précaution de lui demander pardon avant l'enterrement. Vous savez, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais enfin, je referme la parenthèse. Alors, ça, c'est la thèse de Maïmonide. Je crois que j'étais suffisamment clair. Maïmonide considère que c'est un comportement naturel, co-naturel au tzaddik, que s'il a fait une faute, alors on peut compter sur lui que de lui-même, il se repentira. Mais pour que le repentir soit authentifié, il faut qu'il y ait aveu. Ça, c'est le commandement de la Torah. Et ça économise une grande difficulté. C'est que si je considère qu'il y a une des 613 mitzvot de la Torah qui consiste à faire tshuva, ça voudrait dire que la Torah considère qu'on ne peut pas l'appliquer. Vous avez compris le raisonnement ? Si la Torah en disant voilà la loi, et dans la loi, il y a une des mitzvot qui est faire tshuva, alors ça veut dire qu'elle ne parle qu'à des fauteurs. Vous êtes, vous voyez la difficulté ?
Il y a bien plusieurs mois comme ça, tu me vois ton père et ta mère aussi.
Oui. Ah oui, alors là c'est une autre question, je vais répondre tout de suite à celle-là, et je reviens à la question que je vous ai posée. J'espère qu'elle est énorme, hein, c'est ceci. Et on a un cliché, que les enseignements de la Torah sont rationnels. Je résume beaucoup parce que ça nous prend beaucoup de temps. On dit par exemple, regardez à quel point notre Torah est rationnelle. Elle a un commandement extraordinairement évident. Respecter les parents. Mais c'est tout le contraire. Si la Torah nous demande de respecter les parents, c'est qu'elle sait que naturellement on est opposé. Est-ce que c'est clair? C'est tout le contraire. C'est Dafka ou Tzadikim qu'il faut que la Torah dise « Méfie-toi, respecte tes parents. » Parce que tout simplement, le fonctionnement naturel de l'enjambement des générations, je fais allusion à des choses que vous connaissez, fait que naturellement, il y a le conflit des générations. Et au contraire, on est rassuré, parce que la Torah nous rassure. Elle nous dit qu'il y a quelque chose dans le fonctionnement naturel qui fait que vous serez porté à vous opposer à vos parents. Ne soyez pas affolés, mais guérissez ça. Est-ce que c'est clair? Parce que très souvent, les psychologues ont beaucoup étudié ça. Très souvent, au moment de la crise de l'adolescence, vous avez des adolescents qui se croient pervers, parce qu'ils sont traversés par des tendances antiparentales. Je me suis bien exprimé, ok? Alors, ils se sentent perdus, pervers, hors la loi. Pas du tout, ils sont naturellement normaux selon la vie animale. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, ok? Vous avez compris, donc ça rassure, ok? Mais la Torah intervient, et elle dit, puisqu'il y a ce fonctionnement naturel, méfiez-vous, respectez vos parents. J'ai été suffisamment clair? Bon. Eh bien, asseyez-vous là où il y a des chaises. Je suis fatigué quand je vois debout. Et c'est clair ce que j'ai dit là. Et alors, il y a des niveaux, bien entendu. Voilà un exemple que je cite souvent. Et la halakha est très minutieuse. De quoi on est obligé dans le respect des parents? Ça et pas plus, ça et pas moins. Bon, c'est pas le cours maintenant, mais apprenez ça. Mais je vous donne un exemple en passant. J'ai toujours été frappé par ça. Dans les 10 commandements, il y a Lo tirtsakh. Tu n'assassineras point. On traduit tu ne tueras pas, c'est pas exactement ça. Parce que si je vais à la guerre, je suis obligé de tuer. Et ça, la Torah l'a pas interdit, elle a recommandé. Okay. Mais, j'ai raccourci, mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais Lo tirtsakh, parce que c'est lui ou moi. J'ai des souvenirs de guerre, alors je peux. Mais et c'était des Allemands à l'époque. Et alors, l'otirsa, ça veut dire tu n'assassineras pas. Okay? Et là, on pourrait se demander à qui elle parle. Elle parle à Israël, sorti d'Égypte, le seul peuple qui accepte la loi morale comme loi du salut, et elle lui dit tu n'assassineras pas, c'est des assassins. Vous avez compris l'étonnement? Et ça va très loin. Même l'exhortation au monothéisme est difficile. Quand la Torah dit « Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad » à qui elle s'adresse? Le seul monothéiste qu'il y a dans le monde, et leur dit « Prends garde Israël, notre Dieu est un. » À qui tu parles? Vous avez compris la difficulté? Alors je reviens sur la question de l'Otirtsar. Alors la halakha va intervenir, même pas avec une parole, même pas avec un regard. Il y a des niveaux. Bien entendu, il y a des gens qui assassinent avec un couteau, vous le connaissez, lisez les journaux. Okay? Et il y a des gens qui peuvent assassiner avec un regard. On appelle ça en littérature française une œillade assassine. Et d'ailleurs, ça existe, et les psychologues le savent. Toute l'histoire du Aïnara, tout ça, avec un œil, on peut créer un deuil avec un œil. En tout cas, pour revenir à notre question, de quoi je parlais juste avant?
Non, c'est la raison très stricte à propos du respect du
pouvoir. Oui, non, mais ça, j'ai donné ça quand même.
L'assassinat.
Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que. Oui, je voulais savoir ce qu'il y avait avant. Ce que je veux dire, c'est que pour Maïmonide, c'est très clair. une conscience qui a été une fois sensible à la valeur morale, quels que soient les pièges de la vie, et les écueils et les échecs, eh bien c'est d'elle-même, par elle-même, qu'elle finira par revenir faire tchouva. C'est clair. Et là, nous avons une philosophie de la vie, selon Maïmonide, qui est, comme j'ai l'habitude de dire, très aristocratique. Maïmonide parle finalement pour une élite morale. Il considère que cette élite morale, c'est les hommes normaux. Qu'il faut une ascèse de santé morale avant de recevoir la Torah. Et nous allons voir immédiatement la thèse de Nachmanide. Okay. Mais j'espère qu'elle est suffisamment claire, cette thèse de Maïmonide, elle n'a pas à nous étonner. Okay. Alors je reviens à la question que je posais, et ça nous économise à une question, un problème très difficile. Qu'est-ce que ça voudrait dire que dans la loi, il y a un des 613 commandements, c'est ce que je cherchais. Un des 613 commandements, il dirait « faire choix ». Okay. Voilà, Rav Kook a enseigné à ce sujet qu'il y a un autre niveau de la tshuva qui implique que la Torah nous demande de faire tshuva. C'est le tzaddik est constamment en conduite de tshuva. C'est dafka, oui, j'inverse le problème. Dafka, la Torah n'a qu'une chose à dire au tzaddik, c'est de faire tshuva. De faire tshuva de quoi? Il y a deux situations de manquement à l'absolu. Soit la révolte contre le bien, c'est la faute, soit le fait d'être inférieur à un niveau de vertu qui pourrait être supérieur. Je ne sais pas si je me suis clairement exprimé. Le fait de ne pas encore être mieux, c'est là-dessus que le tzaddik fait tshuva de manière permanente. Et il semble y avoir une contradiction. Appelle ça ascension, appelle ça amélioration. Pourquoi appeler ça tshuva, un retour? Alors c'est là que le Rav Kook a mis en évidence, mais vous aurez un cours en hébreu sur les orot à tshuva du Rav Kook, mais je le dis très rapidement, le fait que la tshuva n'est pas seulement un mouvement de la conscience morale, c'est un mouvement du monde lui-même de retour à sa source. J'explique un peu à ma manière, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer les termes même du Rav Kook, très rapidement, c'est ceci. Nous avons vu dans d'autres études, la création consiste à situer une créature loin du créateur. Par conséquent, vous voyez, nous sommes déjà presque sur le sujet de tout à l'heure, la situation de créature est une situation d'exil. Mais de cela je parlerai tout à l'heure. Okay? Et le monde est donné à un éloignement, c'est ça la création. Et toute créature, chacune à sa manière, ne peut pas ne pas percevoir cette absence de proximité, cette expérience d'être exilé, d'être éloigné de l'essentiel. Je crois que le thème de l'exil du paradis a ici sa source. Lorsque nous prenons conscience de nous-mêmes, nous prenons conscience de nous-mêmes comme exilés d'un paradis quelconque qui serait notre véritable monde. Est-ce que c'est clair? Et chaque créature le perçoit à sa manière. Et par conséquent, toute l'histoire du monde, selon l'enseignement du Rav Kook dans Ota Kodesh, c'est un retour à cette proximité. C'est très important de voir que il y a donc un mouvement cosmique de la tshuva. C'est très important de voir que le terme qu'on traduit par sacrifice en français, le terme en hébreu korban, se rattache à une racine qui signifie s'approcher. C'est-à-dire l'acte de sainteté. En latin, sacrifice, ça veut dire l'acte sacré. Ça sert facéré, okay? Mais en hébreu on ne dit pas sacré, on dit sainteté. Eh bien, l'acte de sainteté, c'est un acte de se rapprocher de la source de la sainteté. Ça s'appelle le korban. Mais comme le terme de sacrifice est traduit mal, insuffisamment, parce que sacrifice a fini par connoter une destruction de bien par culpabilité. Je pense à quelque chose que j'ai étudié en ethnologie. Dans les sociétés dites primitives, il y a des manifestations sociales qu'on appelle le potlatch. Je ne sais pas si ce terme vous dit quelque chose. Ce sont des destructions de biens pour témoigner de la richesse. Il y a un potlatch dans les sociétés modernes, c'est les cadeaux de Noël. C'est clair que vous avez une destruction de biens inutile, mais pour montrer sa position sociale. Ou de Hanouka, d'ailleurs. Et Mais il y a, et ce que je vais dire là, nous le connaissons aussi dans la tradition, il y a aussi cette espèce de scrupule de la conscience que, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'innocence à laquelle on croit être arrivé, il y a culpabilité cachée quelque part. Alors ce scrupule fait que on considère que détruire un bien, ça compense. Et il y a là un vertige pathologique, si j'ose dire. Alors, d'où l'idée de sacrifice. Que l'acte sacré par excellence, c'est de détruire quelque chose pour compenser une faute. Payer. Oui, mais c'est une mentalité païenne, finalement. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Donc, alors, je reviens au sujet. Voilà donc la thèse de Maïmonide. La tchoua est un comportement naturel. Et selon les principes de la législation de Maïmonide, selon Maïmonide, le code selon Maïmonide, la Torah ne légifère que là où la conscience est libre. Là où il y a comportement naturel, il n'y a pas de place pour un commandement de la loi, parce qu'il n'y a pas de liberté. Encore une fois, je dirais de manière un peu plus accusée, le tzaddik n'est pas libre de faire ou ne pas faire tchoua. Il ne peut pas faire autrement que faire tchoua. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire que sa conscience ne laissera pas tranquille. Et même celui qui n'est pas forcément tzaddik, le remords va tellement le ranger, comme on dit, qu'en fin de compte, il peut arriver, comme on a vu tout à l'heure, qu'il préférera se repentir que de continuer à souffrir du remords. Est-ce que c'est clair ? Vous voyez le bien qu'on fait quand on pardonne à quelqu'un. Vous avez vu le lien. Donc, c'est vraiment un acte de chesed. Je reviens donc au sujet. Et s'il y a commandement pour Maïmonide, il légifère ainsi, c'est le commandement de l'aveu. Il faut dire avoir. Petite parenthèse que je n'ai pas encore indiquée, et j'arrive maintenant à la thèse de Nachmanide, c'est ceci. Pourquoi l'aveu doit être à voix haute ? Parce que si on se borne à la voix intérieure, il est bien évident que dans notre vie intérieure, nous sommes capables de penser en voix intérieure des choses contradictoires à la fois. C'est-à-dire la velléité, je crois que c'est un mot qui pourrait traduire le hirour, ce qu'on appelle en hébreu le hirour. Le hirour, tu vois, ça veut dire je voudrais bien faire tu vois. Et dans la voix intérieure, n'est pas encore vraiment engagé, n'est pas encore clair. Et il faut qu'il y ait l'engagement par la parole pour que la conscience ait dit ce à quoi elle s'engage, ce à quoi elle a choisi. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. C'est un enseignement du prix de tzaddik. Il n'y a que pour les grands tzaddikim qu'il suffit d'avoir un hirour de tchouva, cherchement en français. Le fait, c'est le fait de velléité, mais une sorte de pensée intérieure. Comment ça se dit en français, hirour ?
Affection dans l'idée.
Non, velléité, c'est le comportement psychologique.
Rationner, c'est seulement
l'idée. Raciociner.
Non, c'est
ça. Non, c'est ça, c'est ça.
C'est quelque chose qui n'est pas exprimé.
Oui. Bon, il faudra qu'une fois je vois un dictionnaire, mais vous avez compris l'idée. Oui. Eh bien, il n'y a pas encore engagement vraiment, tant que ce n'est pas prononcé. C'est très connu des psychologues, surtout depuis la psychanalyse, depuis la catharsis psychanalytique. Lorsque le patient est capable de parler de ce qui le préoccupe, c'est le commencement de la guérison. Vous voyez le parallèle, Ken. Le médecin, qui est le vrai patient, parce qu'il a beaucoup de patience, le médecin attend, il sait déjà à l'avance de quoi il s'agit, mais il attend que le patient, comme on dit, dise, lui, le fait d'avoir le courage de pouvoir dire, c'est le fait qu'on est délivré. Et c'est très parallèle. Mais ça, les poskim de la tchouva le savaient déjà, lorsqu'ils demandent que l'aveu se fasse avoir. Alors que Nachmanide, j'arrive à la deuxième thèse, je vous lis, Oulam, Aramban, Nachmanide, à la Torah, sur son commentaire de la Torah, sur la parashat Nitzavim que je vous ai demandé d'ouvrir, et je vais vous dire quel est le verset, vous allez avoir sous les yeux. C'est le verset 9, je pense. Une minute. Oui, c'est verset 11. Prenez le verset 11 du chapitre 30 dans la parasha de Nitzavim. Oula Maramban, à la Torah parasha de Nitzavim, Katab Befirouf, a écrit de manière très claire dans son commentaire sur le pasuk qui a mitzvah azot, asher anochi mitzavecha ayom, car cette mitzvah que je prescris aujourd'hui, l'onifle et yimimecha, n'est pas trop extraordinaire pour toi. Velo Rechokai n'est pas trop loin pour toi, suivez son texte. Verset 12. Lo Bashamaimi, elle n'est pas dans le ciel. Les mots pour dire Mi Alenu Hashamaima, qui montera pour nous au ciel. Mi Kahe Alanu, elle la prendra pour nous. Mi Hashmeenu Otavena Asena, nous la fera entendre et nous l'accomplirons. Velo Me'ever Layami, elle n'est pas au-delà de la mer. Les morts pour dire, mi avorlanu l'everayam, qui traversera pour nous la traversée de la mer, mi kachera lanu yashmeenu, otavena asena, la prendra pour nous, la fera entendre, pour que nous l'accomplissions, qui karo velecha davar meod, car la chose est près de toi grandement, beficha vilvavecha la asoto, dans ta bouche et dans ton cœur, sur ta bouche et dans ton cœur, pour l'accomplir. Et Nachmanide dit, cette mitzvah dont il est parlé, c'est la tshuva. À cause du contexte des versets précédents que nous verrons en deuxième partie de l'étude. Mais pour toutes les sources de la Gemara, cette mitzvah, ce n'est pas la Tshuva, c'est l'étude de la Torah. Vous voyez où sera la machloket qu'on étudiera tout à l'heure. Et Ramban, lui, préfère considérer que la Tshuva est une mitzvah, et voilà le verset. Je continue dans l'explication. Mitzvah, Sheitza Beotanu Lasot Ken, c'est un commandement, prescription de la Torah qui nous prescrit de faire ainsi. Et c'est selon Nachmanin le sens de l'expression sur ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir. Sheit Vadu et Avonam, avouer la faute. Vous voyez que Nachmanin suit sa propre opinion dans tout le verset. La mitzvah, c'est la tshuva, et il faut la bouche et le cœur avouer et le dire. Alors que le pshat habituel de ce verset, c'est l'étude de la Torah, comme nous allons le voir tout à l'heure. Bien, voilà donc quel est le problème. Je crois que la réponse à cette question, elle est suffisamment claire, vous voyez la différence des deux thèses, c'est que, semble-t-il, Maïmonide,